Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Cœur du Lotus. Dans cette édition spéciale Femmes Inspirantes, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode où nous accueillons Angélie Osina, cette femme extraordinaire qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie et qui continue de le faire aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, elle nous a parlé de son parcours, de son histoire, et aujourd'hui, elle nous parle de son art, de sa manière de travailler et de tous les rituels qui vont autour de ses pratiques. Bon, cette discussion a été pleine d'émotions et la fin de l'épisode est coupée un petit peu bizarrement, mais c'est un petit teasing pour celui d'après. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Angélie.
Coucou.
Merci d'être là encore et merci aujourd'hui de venir partager ta profession, ce qui te fait vibrer, ce que tu fais pour vivre, ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui professionnellement.
Ben merci à toi pour ton invitation et c'est avec plaisir.
Je te laisse nous partager ton parcours professionnel et tout ce que tu as à nous dire par rapport à ça.
Oui, alors à l'inverse de la présentation de mon parcours personnel, on va dire, où je suis partie de l'enfance et je suis remontée, tu m'as fait traverser les grands âges de la vie, en tout cas jusqu'à mes petits 40 ans voilà, de vie. Là, je vais faire l'inverse, je vais vous dire un peu ce que je fais maintenant et puis d'où ça vient tout ça et comment ça a commencé. En fait, actuellement, je travaille en tant qu'artiste. Je me suis spécialisée et j'ai mis mon art au service du sacré, au service en particulier de l'outil principal que j'utilise, qui est le tarot de Marseille, et que je relis avec les lettres hébraïques, l'hébreu biblique et la Bible, les écrits sacrés. Donc actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai monté il y a maintenant presque 5 ans, une galerie qui s'appelle la Galerie La Papesse à Toulouse, que j'ai fermée il y a un an pour faire un atelier privé à Cordes sur Ciel, que je vais réouvrir en galerie l'année prochaine. Donc bon, tout ça c'est encore un peu secret, mais je vous le dis quand même. Voilà. Du coup, forcément, j'ai mis en fait dans cet espace de galerie, j'appelle ça galerie parce qu'en fait, il y a un espace d'exposition où je fais intervenir. Voilà, plusieurs artistes, plusieurs personnes qui présentent leurs travaux et leurs recherches artistiques en lien vraiment entre l'art et le sacré, la spiritualité, ou en tout cas comment les ponts peuvent se faire de l'un à l'autre, parce que c'est très lié. Moi, l'art a toujours été mon pont, on va dire, ma fenêtre ouverte vraiment sur le sacré et sur le divin. Et en fait, dans cet espace, y a plusieurs choses. Il y a un espace vraiment de création où je crée des bougies. Alors je fabrique pas la bougie, mais j'imprime sur bougie et je fais plusieurs sortes de bougies. Je travaille beaucoup avec les saintes et les saints chrétiens et aussi avec les symboles du tarot que je mets et que j'imprime sur bougie pour accompagner justement des moments clés de vie, etc. Et je fais des mélanges aussi d'arcanes du tarot, après consultation de tarot, justement, je propose des bougies en lien et qui sont uniques pour la personne. Et puis si la personne, elle sent qu'elle a besoin de plus ou de passer directement dans le corps, hein, dans un acte thérapeutique psychocorporel, elle va pouvoir recevoir un tatouage si elle le désire. Et ce tatouage sera placé sur une partie symbolique du corps ou si la personne le désire sur une partie très précise de son corps, parce qu'on sait toujours mieux que le tatoueur où on veut notre tatou, même si le tatoueur, voilà, il saura peut-être prendre, on va dire, le contexte, la morphologie et puis l'emplacement, le graphisme, tout ça. Mais en tout cas, voilà, ce que je dis souvent, quand les personnes me disent « je ne sais pas où je le veux », on leur fait fermer les yeux 2 secondes, elles ferment les yeux, hop, elles le voient en fait. Elles le voient situé, le tatouage est appelé sur une partie. Là, je leur dis en fait la symbolique qu'il y a derrière cette partie du corps, parce que ce n'est pas la même chose de tatouer le bas ou le haut, le dos ou le devant, le bras gauche ou le bras droit, la main ou l'épaule. Bref, ce sont des espaces du corps qui parlent aussi de nous et voilà, de la symbolique aussi de notre vie et de où on en est, etc. et tout. Notre chemin de vie est contenu vraiment dans ce corps, en fait, qui évolue tous les jours aussi.
C'est
Et donc,
rigolo parce que quand tu parles de ça, ça me ramène à la deuxième fois qu'on s'est vu, parce que la première fois qu'on s'est vu, on s'est rencontrés pour une séance de pour une consultation de tarot.
oui.
Et à l'issue de ça, tu as créé un merveilleux dessin pour moi que j'ai eu la chance d'avoir ancré, que j'ai sur moi aujourd'hui, sur mon tibia gauche. Et j'étais persuadée, en arrivant de te voir, que je l'aurais sur le mollet gauche. Et quand tu me l'as posé, tu étais là, mais non, pas du tout. Ce ne sera pas sur le mollet, ce sera sur le tibia.
C'est vrai. Je crois qu'il y a des trucs qui se passent comme ça quelquefois. Et puis ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, est-ce que je peux raconter l'anecdote aussi avec les
Oui,
chartes du
vas-y.
monde?
Vas-y, vas-y.
Pardon, je suis désolée, je suis un peu malade. J'ai la laryngite de mon fils que je me traîne depuis 3 semaines. J'arrive pas
Pas de
à
problème.
l'évacuer. Ouais, ce qui était rigolo dans la petite anecdote par rapport à ton tatou, c'est que effectivement, quand le dessin est tombé au moment parce qu'on fait la consultation, moi je note hein, tout parce que voilà, je vais pas. Il faut que je fasse le dessin après. Puis après, il y a d'autres consultations derrière, donc j'enchaînais un petit peu quand j'étais à Toulouse. Là, j'ai mis un rythme un peu plus cool. Et donc, je vais pour faire le dessin. Et effectivement, on avait parlé de l'arcane du diable, qui n'est pas le diable dans le tarot, je tiens à le préciser, qui est vraiment l'adversaire et qui est aussi la part d'affirmation, la part de l'artiste, la part du corps aussi de l'être. Et donc, cette carte qui tombe, je me dis, mais oui, c'est celle-là, il faut, voilà, il y a tout un travail avec l'affirmation et tout. Sauf que l'arcane dans le tarot de Marseille classique, on voit clairement les parties génitales du diable et bon, il a clairement le pénis apparent. En plus, sur mon tarot, il est coloré couleur chair, alors que tout le corps est bleu. Enfin bref, le truc, il ressort, quoi. Et puis, je me suis dit, mais il n'y a pas que le diable, en fait, en termes de représentation et de symbolique, qui ressort dans ce besoin d'affirmation. Il y a aussi le fait de danser, le fait de s'affirmer, de se révéler aussi dans quelque chose de très beau et tout. Et donc, il y a l'arcane du monde qui est sorti. Et en fait, du coup, j'ai fait un mix entre les deux. Bon, il y a aussi l'arcane sombre, il y a plusieurs choses qui sont sorties, mais. Et j'ai mis instinctivement cette écharpe du monde sur le pénis du diable pour cacher, en me disant, non, non, mais je ne veux pas du tout. Il faut que ce soit caché, ça, je ne sais pas, il y avait un truc. Voilà. Alors que je l'ai déjà tatoué, hein, c'est pas un truc. Et le jour de ton tatou, où on se rejoint pour un café avant le tatouage. Et là, tu me dis, bon, par contre, j'ai un petit peu peur, il y a un truc que je voudrais vraiment pas. Et je dis, vas-y. Et là, tu me dis, je me sens vraiment pas d'avoir le pénis du diable tatoué sur moi. Et là, j'ai rigolé, je me suis dit, bah justement, impossible de le dessiner, j'ai pas réussi, du coup, je lui ai mis une écharpe devant. Et c'est comme ça que l'arcane du monde est ressortie d'ailleurs. Au départ, c'était pas forcément évident qu'elle soit là. Donc, c'est trop rigolo, quoi. Et il y a des trucs hein, comme ça. Hein. Moi, je me suis retrouvée carrément une fois à tatouer une femme qui est venue, une femme africaine qui voulait justement un tatouage en lien avec l'Égypte antique par rapport à ses racines, par rapport à plein de choses. Et elle me disait, voilà, moi, je veux un lien avec tout ça et tout. Et puis, ce qui était ressorti dans la conversation, puis dans notre échange et tout, il y avait vraiment la déesse Sekhmet qui sortait. Non, c'était Bastet, pardon, mais c'est la même chose, mais en tout cas dans une version plus cool, plus calme, on va dire. Et voilà, et ça, c'était ressorti, et puis on en avait vite fait parler, mais pas plus que ça. Mais pour moi, c'était une évidence, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'en parler des heures, c'était là. Et au moment de faire le dessin, impossible de dessiner ce chat, quoi. C'était une horreur. Le chat, il avait une tête, on aurait dit vraiment le minou, pas beau, quoi. Ça faisait pas du tout déesse, ça faisait pas du tout. Enfin, c'était pas un beau tatou, quoi. Donc, j'ai dit, bon, je laisse tomber, j'arrive pas. Je laisse tomber, j'y arrive pas. Et puis, ça m'a énervée. Et donc, forcément, au bout d'un moment, je me suis mis à faire un lion. Et donc, il y a cette déesse Sekhmet qui est ressortie. Donc, je lui ai fait vraiment un tatouage. En plus, je crois qu'il y avait une lettre hébraïque qui est ressortie. Enfin, bon, plein de choses. Le jour où elle est arrivée, elle a franchi la porte, elle m'a dit, bon, vas-y, montre-moi le dessin, parce qu'on découvre le tatouage le jour hein, du tatouage. Et là, je lui dis, bon, par contre, écoute, c'est Bastet qui est sorti. Du coup, elle a souri, l'air de dire, ok, c'est cool, ça me plaît. Et du coup, je me suis sentie, tu vois, genre, merde. Ça, c'est quand le mental, il rentre, en fait. Mais quand le cœur, il parle, voilà. Et je lui dis, mais j'ai pas réussi à la faire. Et Elle me dit, bah alors du coup, t'as fait quoi? Et ben, je dis, bah, j'ai fait Sekhmet. Et je lui montre Sekhmet. Le tatouage lui plaît, ça lui parle et tout, elle est à fond. Et là, elle me regarde, elle me dit, je sais pourquoi t'as pas réussi. Et là, elle soulève son t-shirt et elle a une énorme basse tête dans le dos.
Ah, incroyable.
Et ça, tu vois, là, je ne le savais pas, quoi. Enfin, voilà. Et c'est là où je me dis, l'inconscient, il est dingue parce qu'en fait, on se relie. Et la consultation, c'est pas juste, waouh, on va tirer des cartes et je vais jouer aux devinettes avec toi pour savoir ce qu'il te faut, quoi. Pas du tout, puisque en plus, moi, je ne sais absolument rien. Je demande la personne, à la personne qu'elle me dise les choses. Mais en fait, c'est un outil, le tarot, qui permet de se connecter à l'inconscient. C'est-à-dire que c'est un prétexte pour pouvoir ouvrir de la communication avec l'autre, basée sur autre chose que le mental et la réflexion. Si je faisais juste des entretiens téléphoniques en disant, bon, alors, qu'est-ce qui te plairait, machin et tout, mais là, on va être dans un truc hyper raisonné, hyper logique, hyper... Alors, hyper technique et hyper bien. C'est ce que la plupart des tatoueurs font ça. Et franchement, c'est la meilleure solution, je pense, pour tatouer quelqu'un. Mais moi, en fait, j'y arrive pas. J'ai choisi vraiment de prendre cette voie qui est beaucoup plus sensible, qui n'est pas forcément toujours facile, hein, parce que je me mange des trucs quelquefois des résistances, des moments où je me dis, bon, là, je suis complètement à côté, c'est pas possible, ma peau fit n'est pas du tout alignée, enfin, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas genre à chaque fois le jackpot, waouh, on tombe sur le beau dessin et le truc qui plaît. J'ai eu des fois des personnes qui se mettaient à pleurer, qui disaient, bah non, je peux pas, en fait, peut-être plus tard, mais là, en fait, ça révèle des choses, en fait, les dessins. Et puis, quelquefois, il n'y a pas besoin d'être tatoué. Quelquefois, les personnes, elles viennent pour un tatouage, et puis en fait, elles repartent sans tatouage. Et en fait, l'idée, c'était juste qu'elles avaient besoin de faire cette consultation, elles avaient besoin d'ouvrir des choses pour se dire, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment ça qui va m'accompagner? Est-ce que j'ai besoin d'un tatouage pour m'accompagner? Ben, peut-être pas, en fait. Puis finalement, elles repartent avec une bougie et le dessin sur la bougie, et c'est OK, en fait. Donc voilà, c'est un travail un peu spécial que j'ai inventé, on va dire, même si le tatouage, pour moi, c'est quelque chose qui est ancestral et qui, à mon avis, est très utilisé spirituellement par plein, plein de traditions depuis très longtemps. Mais bon, voilà, c'est en tout cas ma façon de faire. Bon, de plus en plus, je tatoue de moins en moins de cartes, sauf maintenant quand on me les demande. Ou voilà, il y a des personnes qui me disent, bah voilà, j'ai très envie d'avoir une carte de tarot. Je sais que c'est vraiment ton truc, donc là, je te demande voilà, de choisir pour moi une carte et tout. Et là, c'est OK, on peut le faire parce que là, on rentre dans quelque chose de l'ordre de l'esthétique, du sensible, de l'amour de l'art, de l'amour de cet outil aussi. Donc, c'est OK. Et on peut porter aussi des tatous comme ça avec moi. C'est pas, moi, j'en ai plein d'ailleurs qui n'ont jamais forcément été faits de façon ritualisée comme je le fais avec les gens, hein. Je suis levée un matin, je me dis, oh là là, j'ai trop envie d'avoir ça sur l'épaule. Et puis on le fait. Puis c'est intuitif, en fait, tu vois. Je veux dire, c'est à la fois artificiel, esthétique, complètement extérieur, parce que oui, c'est beau et qu'on joue avec la beauté du corps et que c'est très à la mode aussi en ce moment. Donc il y a beaucoup de tatoueurs, il y a beaucoup de gens tatoués et c'est OK. Mais c'est aussi très profond. C'est pas parce que c'est artificiel, c'est superficiel et c'est sur le corps que ça veut dire que c'est pas profond. Enfin, c'est des choses qui nous appellent, en fait, c'est un peu viscéral. Et donc voilà, donc ça c'est une des activités principales que j'ai. Mais depuis 2 ans maintenant, enfin là c'est la deuxième année plutôt, je fais surtout de la formation aussi au tarot de l'incarnation, donc le tarot que j'ai créé, mais qui est un tarot classique, formation tarot de Marseille, où là c'est carrément c'est en ligne et tout, donc parce que la plupart des élèves et des apprenants sont vraiment dispatchés, on va dire, dans le monde. J'allais dire en France, mais en fait non, dans le monde, puisqu'il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont en Australie, et puis des Françaises en Australie, il y en a qui sont au Québec, donc ou dans d'autres pays francophones. Et finalement, c'est un espace vraiment que j'adore, que je trouve vraiment riche, hyper intéressant. J'ai plein, plein de choses à partager, donc forcément, moi, plus je fais des recherches, plus j'ai envie de partager ça. Et c'est vraiment le meilleur espace que j'ai trouvé pour partager et pour continuer aussi à chercher de façon, voilà, j'ai envie de dire infinie, quoi. C'est-à-dire que toutes les choses que j'apprends, alors c'est très difficile, c'est comme écrire un livre, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop, là, ton enseignement, il est calé, tu t'arrêtes, et puis tu passes à autre chose ensuite sur un second module ou quoi, mais il faut arriver à... Ça, c'est un exercice, voilà, je suis en train d'apprendre, pour pas que ce soit non plus trop et que je gave. on va dire, les apprenantes avec,
Mmh.
avec trop de choses. Il faut pouvoir voilà, faire les choses petit à petit et puis que ce soit digeste et voilà, et pédagogique et tout ça. Donc ça, j'apprends. Et après, bon, bah, je fais les consultations, même en dehors des tatouages ou des illustrations. Mais toujours pareil, voilà, c'est pas un tatouage, c'est pas un tarot, pardon, qui va être divinatoire. Les gens qui me contactent, qui me disent je veux une voyance, mais moi je ne suis pas voyante du tout. Je ne suis pas dans ces trucs-là. Ça me... Pas que ça ne me parle pas, ça me parle, mais pour moi, il n'y a pas de. Y a pas de possibilité d'amputer le libre arbitre de la personne en lui disant il va t'arriver ça. C'est pas possible. Parce que comme je suis artiste et que je suis dans la création, et que pour moi l'énergie de créativité, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est vraiment mon élan vital, c'est vraiment ce qui me fait me lever le matin, j'ai presque envie de dire, je me dis, si enfin, il y a des moments, il y a des trucs qui sortent dans les cartes, mais en fait, c'est un jeu de c'est toute une histoire de langage. Et il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise, parce que le langage, il est créateur. Si tu dis à quelqu'un, il va t'arriver ça. T'as une chance, t'as quand même une grosse chance pour que ça lui arrive dans la mesure où tu l'as verbalisé ou que tu lui as mis ça dans la tête, en fait. Donc, y a beaucoup de gens qui manipulent avec ça. Et le tarot, encore une fois, je reviens là-dessus, ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil magnifique si, effectivement, on a un cœur magnifique et qu'on en fait quelque chose, tu vois, vraiment aligné avec des valeurs qui sont saines. Et je ne dis pas que je suis saine. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Je peux pas me dire, oh, ben oui, moi je suis dans la lumière, j'ai tout compris, mon tarot il est parfait. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai et j'essaye en tout cas de pas faire ça. Parce que c'est pas bien en fait. C'est pas quelque chose. Quand tu as des personnes qui sont justement en état de faiblesse dans des moments de vie compliqués, complexes, des tournants de vie, dans des deuils, dans des choses comme ça, et qui sont vraiment à nu face à toi en train de te raconter leur vie. Mais quitter pour leur dire, voilà, c'est compliqué. Donc il y a vraiment l'idée de reconnecter vraiment au tarot pour ouvrir un espace vraiment de parole en fait et de dire, bah voilà, tu. Quelquefois, moi, c'est même les gens qui parlent, hein, qui regardent le tirage et qui vont, en fonction des images qu'ils voient, parler. Ah bah tiens, ça me fait penser à ça. Et c'est génial parce que c'est eux qui viennent s'accoucher eux-mêmes de ce qu'ils ont besoin de dire en fait et en fonction des images qu'ils voient. Moi, évidemment, je ne vois pas les mêmes choses. Et voilà, c'est comme ça aussi que va se traduire l'inconscient dans les mots utilisés. C'est hyper important, le langage. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai réintégré les lettres, hein, dans le tarot. Dans mon tarot, j'ai remis les lettres hébraïques parce que bah, quand les lettres se mélangent, ça fait des mots. Et ces mots-là, ils renvoient au mythe biblique. Et donc, ce mythe, il est inscrit dans nos corps, il est inscrit dans notre culture. Et même si on n'a jamais eu d'éducation religieuse, même si on n'y connaît rien et qu'on se dit oh ben non, ça ne me parle pas, ah ben y a des trucs qui sont. Enfin, c'est vérifié, quoi. C'est vraiment incroyable. Quand le mythe, on le raconte, la personne, elle dit ah ben oui, ben c'est ça. C'est complètement. Je vais donner un exemple peut-être concret parce que ça paraît peut-être un peu complexe comme ça, mais je pense par exemple. À une jeune femme qui m'a demandé, voilà, qui me disait, j'ai très envie de faire un bébé, je n'y arrive pas avec mon compagnon, pas parce que physiologiquement ça marche pas, c'est qu'en fait ça me fait très peur, donc on ne le fait pas alors qu'on en a envie. Et en fait, bon, en creusant, cette personne, elle est d'accord, hein, que je dise anonymement son témoignage. Je ne me permettrai jamais de raconter des choses aussi intimes, même anonymement, parce que je trouve que c'est. Elle est d'accord. Elle m'a dit plusieurs fois, oui, si tu veux en parler, voilà, si tu veux en parler dans la formation, dans des lives ou quoi, tu as le droit, parce que c'est fou, en fait, cette consultation. Elle me dit donc qu'elle veut faire un bébé et qu'en fait, c'est compliqué parce que effectivement. Elle a une relation un peu toxique avec sa propre mère, donc c'est compliqué de d'arriver à faire un enfant, de prendre sa place de mère quand la place de notre mère à nous est déjà prend déjà toute la place. Et c'est plutôt une femme qui s'est occupée de sa mère plutôt qu'une femme qui a eu une maman qui s'occupait d'elle. Donc elle a cette posture de ben, j'ai déjà eu un enfant quelque part, mais il y a quelque chose qui est un peu inversé, si tu veux. C'est comme si sa mère lui avait pris sa place de mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu tordu, c'est pas facile. Elle a réussi à mettre des mots dessus, déjà c'était magnifique. Et dans son tirage de cartes est apparu un mot en hébreu. Donc moi Voilà, je lis l'hébreu, mais je ne sais pas forcément ce que je lis. Hein, donc, j'ai besoin de mon dictionnaire à
Mmh.
côté pour dire, tiens, ça veut dire quoi, ça? Hop, donc je le lis, hop, je retrouve le mot, et le mot me renvoie un texte de l'Ancien Testament, évidemment, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, donc il n'y a que, en tout cas sur l'Ancien Testament, que ça peut renvoyer. Même si l'Ancien Testament est en miroir avec le Nouveau, donc il y a des ponts qui peuvent se faire avec les évangiles du Christ. Et c'est ce que j'essaye de faire justement avec mes études de théologie. Et en fait, le mot qu'elle avait, c'était le mot chasse, de chasser. Et donc, ça renvoyait à Jacob et Ésaü, qui sont en fait des frères jumeaux. Et il y a tout un truc autour de ce mythe, comme quoi, effectivement, pour avoir le droit d'aînesse, Jacob est obligé d'aller voir son père, Isaac, et de lui demander le droit d'aînesse. Sauf qu'ils sont jumeaux et il est né en deuxième, Jacob. Donc, il n'a pas le droit d'aînesse. Sauf que son frère aîné est un monstre. Enfin, c'est quelqu'un, c'est une brute. D'ailleurs, on le décrit hyper poilu et tout, hyper espèce d'archétype un peu de l'animal, en fait, du mec hyper viril, hyper. Et puis, pas de cœur. Il faut savoir que le thème de la jumélité dans la Bible, à chaque fois, il y a des doubles. C'est toujours des parts de nous, en fait. Hein. Donc, ça représente vraiment la part animale, le mec bourru à l'intérieur de nous et Jacob, le mec voilà, qui a de l'espoir et en tout cas qui vise la terre promise et qui vise des choses très très lumineuses. C'est un peu voilà, ce yin-yang à l'intérieur. Et donc il va voir son père et lui dit bah, voilà, je suis. Son père est en train de tomber malade, il est aveugle et tout, il voit rien. Et lui dit bah, voilà, je veux le droit d'aînesse, donne-moi la bénédiction. Et comme il y voit rien, il s'est mis une vieille peau dessus, tu sais, avec des poils pour faire croire que c'était son frère. Donc comme il y voit rien, il touche, il sent les poils et puis il dit oh bah oui c'est bon t'as ton droit vas-y. Et donc Jacob va ensuite pouvoir partir et fonder, il va devenir Israël. Hein, Jacob c'est vraiment le celui qui va complètement accomplir on va dire ce qui était destiné voilà avec les grands patriarches. Et cette histoire est dingue parce que le mot chassé et c'est là après on a fait des recherches ensemble avec cette personne parce que moi je suis pas voilà je connais un peu la Bible mais je suis absolument pas spécialiste de rien du tout je suis en étude et puis il y a tellement de choses que voilà c'est pas possible de non plus connaître le texte la parole de Dieu la parole de la Bible en fait est une parole que l'on doit lire soi-même pour comprendre donc moi je l'ai renvoyé vers ce texte et je lui ai dit tu vas le lire moi je peux rien te donner à part je te donne ce qui est dit dans le Staro, c'est à toi d'aller voir. Et donc moi, de mon côté, évidemment, je suis allée voir, parce que j'apprends en même temps avec les personnes avec qui je fais les consultations. Et ce qui en est ressorti, c'est que ce mot chasser, c'est tiré de l'expression qui part à la chasse, perd sa place. Et en fait, quand il est parti, en fait, Ésaü est parti à la chasse et donc Jacob a pris sa place et il est devenu l'aîné et il a pu ensuite accomplir parce qu'il a eu la bénédiction du père. Et c'est ça en fait. Et tout autour de sa consultation, ce qui tournait autour de tout ça, c'était il est temps que tu reprennes ta place en fait. Et même si tu dois user d'usurpation ou de choses qui sont pas forcément, voilà, il faut que tu le fasses en fait. Même si tu as l'impression que c'est pas naturel de faire un bébé, si tu en as envie, fais-le et tu prendras ta place, voilà, au moment où. Parce que ce que tu ressens là, voilà, c'est là, c'est vital, il faut que tu le fasses, mais tu as encore peur de ta mère et de ce qu'elle va dire, et de peu importe. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment ça, quoi. Et cette consultation était hyper forte parce qu'elle a permis de. Ben, moi, ça m'a aussi ouvert les yeux sur la puissance de ces lettres, de ces textes bibliques, de dire, mais c'est des choses qui sont inscrites en nous, quoi. On connaît tous cette expression qui va à la chasse perd sa place, mais personne. Franchement, je connais pas grand monde qui savent d'où ça vient.
Ouais.
Et on a tout dans notre vocabulaire, dans notre manière de parler, dans nos mimiques, dans plein de choses, des expressions qui sont tirées de tout ça et de ce grand mythe biblique, en fait, de cette grande histoire, et qui est notre histoire, en fait, et qu'on a complètement mis de côté parce que, bah, parce que voilà, s'il faut savoir que les hommes, les politiques et les religieux, ils n'ont pas fait des choses non plus. Super cool avec, donc forcément, on en a été un peu dégoûté, on s'en est éloigné. Puis même les lectures, si tu regardes les lectures de la Bible, c'est tout le temps premier degré. On va jamais dans la profondeur du texte, on va jamais dans la vraie définition des mots, on va jamais. Heureusement qu'il y a des théologiens et des gens comme justement Annick de Souzenel qui a fait ce travail-là, parce que c'est un travail de titan, quoi. C'est un truc de dingue. Si elle n'avait pas été là, mais je pense qu'on serait encore resté dans notre obscurantisme. À se dire que la Bible est un livre de morale, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc voilà, ça c'est pour la... C'était un peu long, désolée.
C'est passionnant, ne t'excuse pas.
Et là, tu vois, ça m'est arrivé. Donc, pour revenir justement à mon activité, je prépare là, dans 2 jours, une masterclass donc sur le livre de Job, justement, que j'aime beaucoup et qui, pareil, m'a été donnée ou en tout cas transmise à travers un tirage de cartes à un moment donné où j'étais complètement sous l'eau, on va dire. Et je me suis retrouvée donc à l'hôpital pour la naissance de mon deuxième fils au mois d'octobre. Donc j'ai fait une éclampsie, pour les gens qui connaissent, à 6 mois de grossesse. Donc il a fallu me sortir mon bébé en urgence parce que j'étais en train de mourir. Et donc il fallait que le bébé soit mis en couveuse et que moi, pour arrêter en tout cas les symptômes, il faut que j'accouche. Donc bon, il y a 20 ans de ça, les femmes, elles donnaient naissance à des bébés qui n'étaient pas viables, ou en tout cas les couveuses n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Le travail qui fait la médecine est absolument incroyable. Donc mon bébé, qui s'appelle Eden, a pu vivre et il va bien aujourd'hui. Moi aussi, mais pendant la période où ça s'est passé, j'en menais par la pas large, comme on dit. Et donc, je me suis retrouvée dans ma chambre d'hôpital avec mon tarot, mon autel à la Vierge Marie et mes icônes orthodoxes et voilà, tout mon chapelet, ma Bible. Et le soir, la veille de l'opération d'urgence, j'étais sous surveillance, tout ça. Puis j'ai fait un espace vraiment de prière. Et puis j'ai demandé pourquoi il se passait ça, en fait. Parce que dans ma tête, il y avait quelque chose que j'avais pas fait bien. Tu vois, comme on est un peu avec nous-mêmes, c'est un peu n'importe quoi. Mais on fait tous ça. On le fait déjà quand on vit une agression physique. On a l'impression que c'est de notre faute. Et puis quand on vit une agression de la vie comme ça, on a l'impression qu'aussi on a fait quelque chose de pas bien, quoi. Quelque chose qui... Voilà. Et dans mon tarot, donc j'ai sorti 3 cartes pour me répondre. Et là, bah, je suis tombée sur un mot, Sefek, qui veut dire surabondance et qui est relié au livre de Job. Et ce livre de Job, et en fait, bah, du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est parti, on y va, quoi. Et je l'ai lu. Et en fait, j'ai pris une grosse claque parce que je me suis dit, mais c'est dingue. On demande en fait au divin des choses, ou en tout cas, c'est comme si on avait des contrats inconscients avec l'au-delà ou avec le monde subtil, avec le divin, la source. Et que en fait, il y avait toujours cette idée un peu de rétribution derrière, tu sais, de se dire, je fais ça pour ça. Mais pas que dans la religion, hein, dans. Je dirais même dans le monde du développement personnel, enfin dans tout. Moi, il y a des gens qui m'ont quand même dit, une thérapeute, ah oui, je pense que si tu as fait une éclampsie, c'est que tu n'as pas assez bossé sur ces mémoires transgénérationnelles. Tu vois? Genre, ok.
Voilà, violence.
C'est hyper violent. Mais en fait, je le comprends, ce langage aussi. Donc, je ne l'ai pas pris méchamment. Mais après coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, le livre de Job, revenons à ça. Et dans ce livre de Job, effectivement, c'est ça qui est dit. Job, il prend hyper cher parce que... Forcément, il est parfait, ce mec. Il fait tout comme il faut. Il est trop bien. Il fait des prières tout le temps. Jamais il va maudire Dieu. Jamais il va faire des choses de travers. Tu vois, il va même prier pour ceux qui ne prient pas, en se disant, bah tiens, il n'a pas prié, c'est pas bien. Ou en tout cas, pour éventuellement, s'il avait fait une erreur, il prie pour ses fils, comme ça, il fait des holocaustes pour ses fils. Et en disant, bon, bah, s'ils ont fait une bêtise, au cas où, je fais quand même un sacrifice pour Dieu. Voilà, l'air de dire, le contrat, tu vois, il est signé avec lui, t'inquiète, tout le monde est protégé. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le jour où il prend trop cher et où il perd tout, bah, là, il se demande clairement, voilà, il se dit, mais en fait, super, j'ai fait ça pour rien. Mais en fait, tu ne vas pas prier Dieu pour avoir quelque chose. Tu vas pas bosser sur tes mémoires transgénérationnelles ou faire tout ton travail comme si c'était, tu vois, une pratique un peu gris-gris ou un truc un peu mon Dieu, c'est bon, j'ai tout bien nettoyé, j'ai tout bien fait. En fait, ça s'appelle de la superstition. Et c'est là la grande différence, je pense, entre la spiritualité ou en tout cas la foi telle que je l'entends et la superstition. C'est que la superstition, on va faire les choses. Alors, le tarot superstitieux, il y en a plein des gens qui pratiquent comme ça. Hein. C'est ah là là, mon Dieu, je suis tombée sur une carte ce matin, c'était une impératrice renversée. Ah oh mince, et tout, c'est une impératrice renversée, tu crois que ma journée va mal se passer? Non, mais en fait, si tu penses comme ça, laisse tomber, oublie ton tarot tout de suite, laisse tomber. C'est juste pas possible. Et puis voilà, donc ça m'a vraiment fait réfléchir, je me suis dit, bah tiens, alors oui, j'ai travaillé, du coup, ça m'a fait un peu plus ouvrir les choses et le cœur, en me disant, mais ouais, peut-être, effectivement, que je suis trop dans ce truc de je fais les choses inconsciemment pour être la bonne fifi à son papa là-haut, et c'est pas comme ça que je dois le voir. Donc, j'ai lâché, j'ai demandé vraiment à être guidée hein, dans cette épreuve, qui n'était pas facile. J'ai lâché, et puis ce que j'ai reçu, bon ben, au-delà d'un super beau bébé en pleine santé, ben, c'est le fait d'avoir lâché aussi tout, enfin, de m'être confrontée finalement à un personnel hospitalier qui était adorable. Moi, j'avais très peur, hein, j'avais accouché à la maison la première fois, c'était pas parce que. C'est pas parce que je voulais forcément accoucher à la maison, c'est parce qu'en fait, je ne voulais pas aller à l'hôpital. Je me disais que forcément, ça allait être un accouchement raté, que ça allait être horrible, etc. et tout. Donc moi, j'ai fait ça comme ça, presque finalement par. Il y avait des convictions quand même, il y avait mon cœur qui m'appelait à ça, mais il y avait un aspect aussi très contrôle, en fait. Enfin, dans mon truc de faire. Pour certaines personnes, je contrôlais rien. Au contraire, j'étais dans le lâcher prise, dans le truc. Ça, c'était l'apparence. Mais au fond de moi, c'était moi qui avais entièrement le contrôle. Il n'y a personne qui me touche. Il n'y a pas de toucher vaginaux. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ocytocine de synthèse ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'épisiotomie. Vous dégagez tous de là, en fait, et vous me laissez faire. Et ben là, je me suis retrouvée. Je peux te dire que c'était l'extrême. Mon mari, mon chéri, il m'appelle. Il m'appelle le Jean-Claude Van Damme de l'accouchement. J'imagine en train de faire mon grand écart là. Et du coup, c'est très drôle parce que c'est vraiment ça, quoi. Il me dit, t'as fait l'accouchement à la maison, t'as tout géré toute seule là. Et puis là, d'un seul coup, t'es à l'hôpital avec des milliards de gens autour de moi. Mais je te jure, c'était un truc de dingue. En fait, j'étais dans mon cauchemar, tu vois, tel que moi je me le dessinais. Dans mon propre cauchemar. Donc, toutes ces voix, tous ces gens, tous ces masques, toutes ces personnes des gens qui me touchent le ventre, d'autres qui m'anesthésient derrière, Mais en fait, dans cette effervescence et dans cet enfer, hein, qui était clairement mon enfer que j'étais en train de vivre, ben, en fait, c'était trop beau. Maintenant, avec le recul, je regrette absolument rien parce que j'ai rencontré déjà des sages-femmes. Le boulot qu'elles font, ces femmes, même au sein de l'hôpital, hein, je disais toujours, oh, les sages-femmes libérales qui bossent à la maison, c'est génial, elles font un travail de ouf, en plus, elles sont hyper mal vues et tout. Mais attends, celles qui bossent à l'hôpital, non seulement elles sont dans une hiérarchie et dans un truc où elles ne sont pas forcément considérées de ouf, mais en plus de ça, elles font ce travail de sage-femme, c'est-à-dire qu'elles t'accompagnent vraiment jusqu'au bout. Moi, je me suis retrouvée avec mon icône de la Vierge sur le cœur qu'une sage-femme a pris dans ma chambre d'hôpital en me disant, tenez, prenez ça. Enfin, vraiment, je lui ai dit, je veux la prendre, je veux la prendre. Elle l'a prise. Il y a un des médecins qui a dit ah non, 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 pas d'objet et tout dans le bloc. Elle a dit si, 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 ça c'est pour elle, c'est hyper important pour elle, on le prend. Et elle m'a posé l'icône sur le cœur.
Wow.
Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. C'est
Ouais,
vraiment,
moi aussi.
c'était hyper beau. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, il y a vraiment des gens. Enfin, c'est fabuleux, en fait, comme métier. C'est incroyable. Il y a une autre infirmière, enfin, une sage-femme. Pareil, elle a vu. Ils m'ont injecté des produits pas possibles dans le corps, des trucs. Voilà, parce que ton bébé, quand il a 6 mois, il faut qu'on puisse préparer ses poumons pour qu'il sorte et préparer son cerveau. Donc, on t'injecte de la cortisone dans les fesses et puis des produits, je ne sais pas ce qu'on m'a injecté, c'est ça aussi qui est genre, complètement dingue dans mon truc de contrôle. Tu vois, genre, mais qu'est-ce que vous faites pour lui dégager les voies respiratoires, pour lui préparer les poumons, la cortisone, et pour lui préparer le cerveau à sortir, il t'injecte un truc qui te défonce sa mère. C'est le cas de le dire. C'était complètement dingue. Et j'étais là avec ça. Je comprenais plus rien. Et donc j'ai essayé de prier. Donc je priais à voix haute. Hein. J'ai essayé de faire la prière du cœur, qui est la prière des orthodoxes, qui est une prière qui est vraiment incroyable, que tu répètes en boucle. Hein. C'est une phrase toute simple. Hein. C'est. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. Et c'est une phrase que tu vas répéter, répéter, répéter sur ta respiration. C'est calé vraiment sur tes respirations, inspire, expire. Et au bout d'un moment, cette phrase, tu n'as plus besoin de la dire. C'est comme si ta respiration, il y avait le Christ qui respirait en toi. Et ton cœur, tes battements cardiaques sont vraiment rythmés au rythme de cette prière. Enfin, c'est une pratique. Hein. Après, toi qui connais bien voilà les pratiques de yoga et tout, tu connais. Donc,
Les
c'est pas quelque chose.
mantras.
Tout à fait, c'est un mantra, exactement. Et donc j'essayais de la dire, sauf que je me mélangeais tous les mots parce que j'étais pas du tout dans mon état normal, en plus de la peur, du stress et de tout ce qu'il y avait avec. Et j'ai une femme, une de ces sages-femmes, qui m'a pris le visage vraiment dans les mains et qui m'a fait respirer en fait. Et elle me disait, vas-y, prie. Et du coup, j'essayais de prier. Et je disais, mais je mélange tout. Elle disait, mais on s'en fout, tu parles, prie ton Dieu, là, appelle-le. Enfin, tu vois, genre, fais le truc comme tu le sens dans ton cœur. Du coup, je priais et en fait, elle m'a complètement accompagnée et j'ai pu vraiment me détendre. Et voilà quoi. Et moi, ce n'était pas l'accouchement en soi qui me faisait peur parce que ce n'était pas un accouchement, c'était une opération. Enfin, une opération, c'était une césarienne, donc un accouchement. Mais j'ai du mal encore à dire que c'est un accouchement parce que je n'ai pas accouché, on m'a accouché. C'est
Ouais.
complètement différent. Donc voilà, ouh, je suis partie loin, mais tout ça pour dire que voilà, Job m'accompagnait là-dedans. Et les cartes de tarot, le travail vraiment du tarot, le travail biblique m'a accompagnée dans cette réflexion-là pour tenter de comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais maintenant, je vais tenter en tout cas jeudi de faire ma première masterclass pour transmettre en fait toutes ces choses-là qui sont complètement dingues autour du livre de Job que je trouve absolument magnifique. Et j'invite vraiment tout le monde à lire ce livre et à se l'approprier bien entendu avec son propre vécu, parce que c'est toujours pareil, la Bible, les évangiles et la Bible, si c'est pas vécu à travers ton prisme et ton expérience, c'est pas que ça veut rien dire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ça devient du coup un livre, comme je disais, de morale, ou un livre historique, hein, qui est très intéressant aussi, mais les Juifs ont quatre manières de lire la Bible. En tout cas, dans la pensée mystique, kabbalistique, tu as quatre manières de lire la Bible. Soit effectivement tu vas sur le côté historique, pour l'histoire de Moïse, tout ça, des Hébreux, ok, c'est très intéressant. Soit tu as le côté moral, où vraiment c'est un livre de morale, où tu fais des règles de loi, de vie, voilà. Mais là, c'est toujours particulier parce que bon, des règles qui ont été écrites il y a 4000 ans, c'est compliqué de les mettre au goût du jour, même s'il y a des choses voilà, qui sont très vraies, comme les premières lois de Dieu, tu ne tueras point, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'autres lois dedans. Et après, tu as la version symbolique, en fait. Et après, tu as une quatrième version, qui est la version plus ésotérique, mais pas au sens où on l'entend, au sens vraiment du grand mystère, en fait, qu'on ne peut pas forcément comprendre, qu'on essaye de comprendre, mais ça ne sert à rien d'essayer de comprendre, qu'on comprendra peut-être plus tard. Mais la troisième phase, elle est vachement intéressante parce que c'est la phase vraiment du symbole et de remettre tous les personnages à l'intérieur de soi et de voir en quoi, en fait, ils correspondent à des différentes facettes de nous et comment est-ce qu'on peut se servir de ces énergies en nous pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment comme ça que je lis la Bible, en tout cas maintenant, aujourd'hui. Voilà.
Donc aujourd'hui, on peut avoir la formation tarot en ligne, on peut avoir des masterclass, on peut se procurer tes bougies rituelles, tes tatouages rituels,
Oui.
on peut aussi se procurer un oracle, un tarot, un oracle que j'ai acquis il y a peu de temps, qui est absolument extraordinaire, dont peut-être tu as envie de parler aussi.
Oui, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais par
Oui.
contre, c'est hyper intéressant parce que moi je le distribue ici. Donc tu parles bien du sort des apôtres.
Exactement.
Ouais. Alors, moi j'ai fait mon tarot. Le tarot, c'est le tarot. J'ai fait le tarot de Marseille, le tarot de l'incarnation, et je suis en train de travailler sur un oracle d'arcanes mêlées, d'arcanes mélangées qui donnent des lames de tarot et des lames qui ont été tatouées sur le corps. Ça, c'est en préparation. Ça sortira, j'espère, à la fin de l'année, peut-être début d'année prochaine, on va voir.
Dont celui que j'ai de tatoué sur le tibia d'ailleurs.
Dont ta lame, oui, effectivement, qui est dedans. Oui, tout à fait. Je crois, si je ne me mélange pas, parce que j'ai changé les noms des cartes plusieurs fois, mais il me semble que le dernier nom de ta lame, c'est l'exorcisme. Donc, c'est vraiment le fait
Wow.
de. Ouais, c'est assez fort, mais en même temps, tu as une personnalité tellement forte, et c'est voilà, ça allait bien avec plein de choses dont on a parlé, donc j'adore. Moi, tout de suite, on a la vision de la purée de pois qui sort dans la bouche de la petite fille du film, mais c'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle, pas tout à fait. En tout cas, ça, c'est la caricature. Oui et non. Et après, bah, le sort des apôtres, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, ah, j'ai un petit bébé qui va venir téter, par contre. Est-ce que c'est problématique ou pas?
Je ne pense pas. Je pense que petit bébé est invité à téter.
Éden. Livré par le papa. Là. Voilà. Donc, ce sort des apôtres, en fait, c'est un oracle, oui, on peut dire ça comme ça, qui a été basé. Donc, Robin et Simon-Pierre, les garçons qui l'ont mis en forme de carte, à la base, ce n'est pas un jeu de cartes, c'est un parchemin qui a été trouvé dans la chocolaterie, dans les murs de la chocolaterie de Cortes-sur-Ciel. Alors, tout de suite, ça, moi, cette histoire me fait rêver, quoi. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter.
Non, mais c'est clair.
C'est clair. Et en fait, c'est un oracle qui date du XIIIe siècle et qui, en fait, était fait, c'est un parchemin avec des ficelles. Alors, j'ai pas encore complètement compris, il faudrait que j'aille le voir, il est aux archives d'Albi apparemment. Et puis il y a une copie au musée Charles Portal à Cortes-sur-Ciel, là où j'habite, où en fait il y a des petits cordons, un petit cordon jaune ou un petit cordon vert en fonction de la réponse que tu veux. L'idée c'est de poser d'abord une prière, donc vraiment tu invoques l'esprit, hein, c'est Saint-Esprit, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est vraiment une prière chrétienne, et à la suite de ta prière, tu vas poser ta question et l'oracle te répond ou le parchemin te répond en fonction de la ficelle sur laquelle tu tires et sur la réponse sur laquelle tu tombes. Ces garçons, ils ont décidé de faire à partir de ça un petit jeu de cartes en fait pour reprendre en fait toutes les questions, la prière, etc. et tout. Et ce que j'ai adoré évidemment, c'est que bah, déjà l'esthétique du jeu, parce qu'on est complètement une esthétique médiévale. Et puis le fait de faire sa prière avant de tirer les cartes, parce que moi c'est quelque chose que je fais maintenant. Je fais plus, voilà, en mode j'allume ma bougie, je m'intériorise, je me pose, je tire les cartes. C'est, je m'intériorise, ok, mais je vais faire une prière, je vais convoquer ou invoquer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as, mon cœur? Je vais pas travailler comme ça avec l'inconscient. Voilà. Bon, après c'est ma pratique, c'est très personnel, hein, mais. De plus en plus, j'en parle parce que je trouve que c'est important quand même. Et donc, le fait qu'il y ait cette prière et de savoir surtout qu'il y a. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, on doit changer de néné là parce qu'il y a un problème de néné. Il n'y a pas d'entière satisfaction là, c'est pas normal. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que. Ça nous rappelle vraiment le fait que les. Ça nous rappelle que le. En fait, les chrétiens avant avaient ce type de pratique. Attends, je ne sais pas ce qu'il a, ce petit bout. Donc, en fait, ça va être. Ça remet en question, si tu veux, plein de choses par rapport au christianisme. On a. En fait, toute cette empreinte de l'Inquisition qui est passée à ce moment-là pour cramer tout le monde et pour dire c'est pas bien, elle est encore vraiment d'actualité. Je trouve que c'est vraiment imprégné. Bon, après, c'est beaucoup dans le catholicisme romain, je trouve. Moi, dès que je parle avec d'autres chrétiens de tarot, tout de suite, c'est ah non, mais ça, c'est pas possible, c'est le diable. Vraiment, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Et quand tu commences un petit peu à parler de ça et en discuter avec les gens, au bout d'un moment, ils comprennent qu'effectivement, non, t'es pas, c'est pas trop ton truc, le diable, t'es pas dans ces trucs-là, faut pas exagérer. Et qu'il faut pas non plus mettre tout ça voilà, dans le même panier, mais c'est très difficile. Ce sont des croyances, en fait, qui ont été vraiment infligées et posées avec cette inquisition-là à la fin du Moyen-Âge. Pour l'histoire vite fait de Cortes-sur-Ciel, c'est que on pense que ça a été caché justement dans les murs de la chocolaterie parce qu'il y avait régulièrement l'Inquisition qui venait pour brûler les gens parce qu'il y avait beaucoup de cathares ici. Notamment dans la ville de Saint-Marcel, qui est juste à côté de Cordes, là où il y a ma paroisse orthodoxe et là où j'ai reçu, on va dire, la grâce de devenir orthodoxe, même avec le sacrement de confirmation. En fait, dans ce village, il y avait, je crois, entre 6 000 et 8 000 personnes. C'était un truc de malade. C'est une grande ville. Le comte de Toulouse a décidé que c'était que des hérétiques, que c'était pas des bons chrétiens, c'était des chrétiens, mais des chrétiens qui pratiquaient des choses qui n'étaient pas correctes au vu de l'Église catholique, et ils ont brûlé tout le monde pendant 3 jours. Ils se sont acharnés à brûler tout le monde. Donc c'est un truc de dingue, et donc il y a à peu près 1 000 personnes qui ont réussi à s'enfuir, et ils ont réussi à être protégés, si tu veux, avec grâce à Corde sur Ciel, parce que apparemment il y avait peut-être les Templiers qui étaient ici, on ne sait pas trop. Et comme c'est une citadelle, tu sais, avec vraiment les portes qui se ferment et tout, c'est une cité qui n'a jamais été prise, en fait, qui a toujours été protégée. Donc ils ont réussi à protéger les gens comme ça, et Corde sur Ciel est devenue Corde sur Ciel de cette histoire. En fait, ce sont les gens de Saint-Marcel qui ont migré, en fait, vers ce village. Et c'est assez beau parce que quand tu es sur Saint-Marcel, là où il y a ma paroisse, c'est dans la forêt, c'est hyper beau Saint-Marcel, j'aime beaucoup. Bah, quand tu es vraiment en face de notre église, de notre chapelle, tu regardes au loin la colline et tu vois Corde en face, en fait. C'est vraiment comme si de colline à colline, les deux villages se répondaient. Enfin, c'est assez fort. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait, qu'ils aient fait ce tarot, enfin cet oracle, c'est pas un tarot, à partir de ce parchemin, parce que c'est un outil, bah, moi, pour en tout cas l'avoir tiré plusieurs fois à des personnes autour de moi et tout, ça tombe à chaque fois. C'est fort, quoi. Enfin, c'est pas juste, voilà, un petit oracle. Il y en a beaucoup des oracles aujourd'hui, tu vois. Moi, j'aime pas trop les oracles
Oui.
parce que je trouve que c'est un peu, enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il en faut pour tout le monde. C'est pas. Et il y en a
Exactement.
certains, c'est toujours un peu cucu, quoi. si je te dis. Tellement l'habitude du tarot, tu sais, qu'il y a des messages tellement ancrés et tellement forts que quand je passe à l'oracle, je suis là, ouais, bon, c'est un peu niais quand même. Sans être méchante, mais. Et ben lui, non, quoi. Il a quelque chose vraiment de. Ah ouais. Il y a même une carte qui te dit, en fait, t'es pas prêt, reviens plus tard, quoi. Tiens. Laisse tomber, arrête les oracles, arrête, quoi. C'est vraiment ça. Je trouve ça rigolo. Puis voilà. Donc je leur en ai pris plein, plein, plein. Je les ai mis sur ma boutique pour vraiment faire connaître cet objet ludique qui est très, très fort et historique à la fois de notre village. J'adore.
Donc tout ce que tu proposes, on peut retrouver sur ta boutique en ligne maintenant, c'est ça?
Oui, tout à fait. Sur mon site qui est lapapesse.art. C'est voilà, il y a tout sur la première page. Là, il y a la masterclass de jeudi qui va être comment dire gratuite. Je pense que les masterclass vont être gratuites. Après, je pense que je les mettrai en replay, peut-être payante. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller avec ça et ma manière de voir. Enfin, je vais voir parce que pour moi, c'est ce que je disais justement hier. On a fait un entretien. Avec Lia, une tarologue, et je lui disais vraiment, moi, cette question de l'argent aussi par rapport à la spiritualité, c'est très compliqué. Moi, ce que je vends dans mon travail, c'est mon art. C'est mon art. Mais après, tout ce qui est de l'ordre de la recherche qui est en parallèle, bon, à part sur la formation tarot, parce qu'il y a vraiment de l'art, on a fait des images cinématographiques, j'ai fait venir un vidéaste qui travaille hyper bien, enfin vraiment, on a chiadé le truc à fond. La plateforme et tout est fait, vraiment, on a mis beaucoup, beaucoup. Mais après, tu vois, sur des masterclass comme là, j'ai fait, il y a beaucoup de recherches, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas, dans le sens où ce que l'on reçoit dans des moments de vie comme ça, c'est pas à nous, quoi. Je veux dire, c'est des cadeaux du ciel, des révélations, des choses, voilà, qui, moi, à mon sens, sont très importantes à être transmises. Et non pas pour s'en mettre plein les poches, comme certains font, mais pour justement voilà, transmettre ce qu'on en reçoit et ce qui peut faire du bien aux personnes qui tomberont dessus, tout simplement. Mais c'est voilà, c'est un peu la question où j'en suis en ce moment par rapport à ça. Tu vois, même par rapport aux consultations, je suis en train de revoir un peu quand il y a la bougie, le tatou. Bon. Je fais payer parce que ça fait partie de mon travail d'artiste, de création, de temps et tout. Mais après, la plupart du temps, les consultations, c'est soit prix libre, soit voilà, je veux pas rentrer dans ce truc. Plus en tout cas, je suis en train de revoir ça, tu vois. Puis j'ai aussi mon prêtre, le prêtre de mon église qui m'envoie plein de gens, tu vois. Qui quand c'est des personnes qui touchent un peu comme ça à cette communauté-là, c'est son. Voilà, je sais pas. Voilà, je suis en train de me poser toutes ces questions en ce moment par rapport à ça. Et je pense que c'est important de redélimiter, en tout cas.
Je crois que ça va nous amener sur le troisième volet de cette interview, de cet échange qui va être le chemin de ta foi. Je crois que c'est par là que ça
Oui.
nous amène tout ça.
Oui, tout à fait. Bah oui, en plus, j'ai parlé de Saint-Marcel. J'arrête pas de parler de Saint-Marcel en ce moment. sais pas s'ils vont être trop d'accord là, les évêques et tout, mais c'est pas grave. Saint-Marcel, c'est un cadeau que j'ai reçu aussi du ciel.
Et voilà, c'est la fin de notre deuxième épisode avec la merveilleuse Angélie. Je sais, ça s'est terminé de manière un peu abrupte, mais vous inquiétez pas, le troisième et dernier épisode de ce volet arrive tout bientôt. Et dans ce dernier épisode, Angélie nous parlera de sa foi, de son chemin avec la foi, de tout son parcours autour de la foi et la manière dont elle la vit aujourd'hui dans son quotidien. Alors on se retrouve tout bientôt au cœur du Lotus.